VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Les pays européens impliqués dans le dossier nucléaire iranien, Allemagne, France et Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne, ont rejeté jeudi l'ultimatum de l'Iran qui leur a donné 60 jours avant de remettre en cause de nouveaux aspects de l'accord. Les Européens ont également exprimé leur vive préoccupation après la décision de Téhéran de s'affranchir de deux engagements pris dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire, dont le président américain Donald Trump a claqué la porte il y a un an, jour pour jour. Le fils aîné du président américain Donald Trump Jr. est convoqué devant une commission du Sénat dans le cadre de l'enquête russe. La commission sénatoriale du renseignement aux mains des républicains veut l'entendre pour la seconde fois dans le cadre de cette vaste investigation qui s'est conclue en mars par l'absence de preuves de collusion entre Moscou et l'entourage de Donald Trump pendant la campagne de 2016. Anne Alberson pour les précisions.
Il s'agit de l'annonce surprise de la convocation du fils aîné du président Donald Trump par la commission du renseignement du Sénat sous contrôle républicain, du premier vote dirigé, selon des lignes partisanes, contre un de ses ministres, celui de la justice, William Barr, accusé par la commission judiciaire de la Chambre basse d'entraver les pouvoirs d'investigation du Congrès, et du refus inédit de la Maison-Blanche de livrer certaines informations sensibles en usant de ce qu'on appelle le privilège de l'exécutif. Nous sommes désormais en pleine crise constitutionnelle, a tenu Jerry Nadler, le chef démocrate de la puissante commission judiciaire, après le vote contre M. Barr. La faute du ministre de la Justice, son refus de livrer à la commission la version complète du rapport d'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe. Du pur théâtre politique, a rétorqué le ministère de la Justice.
Le bilan de l'attaque contre l'ONG américaine Counterpart International mercredi à Kaboul, revendiquée par les talibans, a été revu à la hausse et s'élève à 9 morts maintenant, a indiqué aujourd'hui le ministère de l'Intérieur afghan. Parmi les personnes décédées figurent 4 policiers, un membre des forces spéciales, un gardien des locaux sécurisés et 3 civils, membres de l'ONG américaine Care International, voisine de Counterpart. 20 civils ont également été blessés. Un précédent bilan à l'issue de la fin des opérations pour neutraliser les assaillants avait fait état de 5 morts. La Corée du Nord a procédé aujourd'hui à des tirs de projectiles qui n'ont pas été à ce stade identifiés, a annoncé l'armée sud-coréenne dans un communiqué. Ces tirs interviennent alors qu'un émissaire des États-Unis s'est rendu à Séoul pour tenter de sortir de l'impasse sur le nucléaire nord-coréen. Les dirigeants des pays européens vont tenter aujourd'hui d'afficher une image d'unité au cours d'un sommet consacré à l'avenir post-Brexit de l'Europe à Sibiu, en Roumanie, où ils ouvriront aussi la course au poste clé des institutions de l'Union européenne. Réunis à 2700, la première ministre britannique Theresa May, les chefs d'État et de gouvernement ont convenu d'éviter de parler du Brexit qui a dominé bon nombre de leurs dernières rencontres.
Nos infos sur voaafrique.com.
Nous émettons de Washington. Retour maintenant sur le continent. Les députés togolais ont voté mercredi une révision constitutionnelle prévoyant la limitation du nombre de mandats présidentiels, mais qui permet à l'actuel président Faure Gnassingbé de se représenter aux 2 prochains scrutins en 2020 et 2025. La réforme constitutionnelle a été approuvée lors d'un vote à bulletin secret par les 90 députés présents sur 91, dont les 2/3 appartiennent au parti au pouvoir, la principale coalition de l'opposition ayant boycotté les législatives de décembre. Et la nouvelle du jour, le Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 1994 en Afrique du Sud arrive en tête des législatives selon les premiers résultats partiels publiés aujourd'hui. L'ANC, qui possède la majorité absolue dans l'Assemblée nationale sortante, est crédité de 55,07% des suffrages après le dépouillement des bulletins dans un bon cas, c'est-à-dire 26% des bureaux de vote. Si la victoire de l'ANC se confirme, Cyril Ramaphosa au pouvoir depuis février 2018 devrait prêter serment le 25 mai. Les Sud-Africains se sont rendus donc aux urnes Eric Manirakiza a joint à Pretoria l'analyste politique Kofi Kwaku. On l'écoute.
L'enjeu le plus important, c'est de savoir qui va diriger le futur de l'Afrique du Sud. Il y a de très fortes chances que l'ANC va sûrement rester au pouvoir. Mais ce qui n'est pas très sûr, c'est le contentement général de la population sud-africaine, à savoir si leur vie change, surtout au niveau d'un certain nombre de critères, sur par exemple le chômage, la pauvreté, les inégalités, les crimes, et puis surtout, la corruption. Que ce soit les Sud-Africains moyens ou pauvres en général, sont très inquiets au niveau de ce futur. C'est pas seulement que l'ANC va gagner, mais le plus important, c'est de voir si la qualité de la vie et le niveau de vie des Sud-Africains vont changer après ces élections. C'est ça l'enjeu le plus important.
Le président Ramaphosa a promis une nouvelle aube. Est-ce qu'il aura la tâche facile pour relancer l'économie et nettoyer l'état de la corruption?
Pas du tout. Ce ne sera pas aussi facile. Même avec cette nouvelle donne, il y a peut-être même de fortes chances que l'ANC n'ait pas vraiment une majorité très forte. Parce que les choses ne sont pas aussi claires que possible. On attend quand même de savoir, de voir un peu plus clair si l'ANC aura cette majorité. Mais si c'est Ramaphosa qui est le nouveau président, il peut mettre en place un système de gouvernance qui permettra de relancer l'Afrique du Sud, peut-être dans les 2 ou 3 années qui arrivent. Il pourra le réussir si d'aventure, il a autour de lui, s'il se fait entourer de gens techniquement compétents qui comprennent le monde moderne, parce qu'il y a aussi ça, et qui ne se lancent pas dans les questions d'idéologie, qui restent très pragmatiques, qui comprennent que la valeur économique d'un pays est quelque chose qu'il faut continuellement renforcer. Donc il a encore pas seulement beaucoup à faire, mais beaucoup à prouver.
L'ANC joue effectivement sur sa crédibilité, mais on sait que le parti est divisé, le camp Dlamini Zuma, qui se positionne aussi. Est-ce que les 5 prochaines années pourront permettre justement au pays arc-en-ciel de se relever?
Pas vraiment. L'évidence montre que les fractures internes de l'ANC ne lui permettent pas vraiment de diriger à fond efficacement un pays aussi complexe et moderne que l'Afrique du Sud. Mais il y a de très fortes chances, parce que maintenant il y a ce qu'on appelle, il y a une lumière qui vient juste de s'allumer dans la tête des responsables de l'ANC. On espère que cette lumière va leur permettre de prendre des décisions très importantes pour réformer pas seulement l'économie, mais l'État, et ensuite réformer aussi ceux qui sont responsables des grands projets en Afrique du Sud pour permettre au pays d'avancer rapidement. Et ça va prendre beaucoup de temps, au moins 3 ans. Donc en 5 ans, on pourra peut-être voir les résultats en 5 ans, mais il ne faut pas être trop optimiste, il faut être juste pragmatique.
Kofi Kwaku, analyste politique, joint à Pretoria. La mission de l'ONU en Centrafrique se dit préoccupée par les violations commises dans l'ouest de ce pays par un des groupes armés signataires de l'accord de paix Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué publié hier, la MINUSCA fait état d'une récurrence des violations du droit humanitaire commises par le Front démocratique du peuple centrafricain dans la préfecture de la Nana Mambéré. La mission rappelle aux leaders du FDPC que ces actes constituent des violations graves du droit international humanitaire et sont contraires à leur engagement dans le cadre de l'accord de paix dont ils sont signataires. Le mois dernier, des éléments de ce groupe armé ont attaqué un village de l'Ouest où ils ont enlevé 3 personnes, incendié 2 véhicules ainsi que 2 motos et maintiennent 2 des victimes toujours en captivité, a expliqué la MINUSCA. Début avril, une opération militaire avait été lancée par la MINUSCA contre ce groupe implanté localement mais sans influence nationale. L'ONU reprochait au groupe armé d'avoir érigé des barricades sur la seule route permettant d'approvisionner Bangui depuis le Cameroun. Le FDPC dénonçait ce qu'il considérait comme un non-respect de l'accord dans la formation du gouvernement.
Un opposant connu pour ses prises de position publiques hostiles au président tanzanien, John Magufuli, et qui avait été enlevé par des hommes armés, a été retrouvé après avoir été sévèrement passé à tabac, a annoncé aujourd'hui le principal parti d'opposition. L'opposant Mdude Niagali avait été kidnappé par 4 hommes brandissant des armes au moment où il quittait son lieu de travail samedi soir à Mbozi, dans le sud du pays, avait indiqué dimanche le parti Chadema. Et puis les leaders de la contestation au Soudan ont accusé mercredi les généraux de chercher à retarder la transition du pouvoir à une autorité civile et menacer de lancer un mouvement national de désobéissance. Les États-Unis ont exhorté mercredi les chefs militaires soudanais à parvenir à un accord avec les manifestants. Le numéro 2 du département d'État américain, John Sullivan, qui s'est entretenu au téléphone avec le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête du conseil militaire de transition, lui a demandé d'aller rapidement vers un gouvernement intérimaire dirigé par des civils et a trouvé un accord avec avec les meneurs de la contestation réunis au sein de l'ALC. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos, c'est seulement dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.